On va savoir ce soir un peu dans quelle mesure ce livre a tout prédit. Hein, voilà, patientons un peu. Et donc voilà, c'est la parole.
C'est une vraie question, ça. Est-ce que tu peux prédire ce que va dire M. Macron ce soir ?
Non,
mais c'est une question.
Enfin, si je voulais la poser, mais pas grâce à l'enquête. non, mais il faudrait vraiment remercier, et pas du tout de façon formelle et obligée comme on peut le faire d'habitude dans les colloques, parce que, enfin, ou dans les journées comme ça, parce que j'ai rarement été lu d'aussi près et avec autant de générosité et de vraiment d'apport positif. Et donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, en fait, quand on fait ce travail d'écrire des livres, de se demander toujours s'ils vont être lus. Et voilà. Et là, j'ai le sentiment que ce livre a eu, du fait de l'actualité, beaucoup d'écho médiatique. Ça ne veut pas du tout dire que j'ai le sentiment qu'il a été lu. Et là, aujourd'hui, je peux ressortir vraiment avec la conviction que non seulement il a été lu de près, mais en tout cas, il a été vraiment nourri et augmenté de la réflexion de Frédéric. Et donc, je voudrais vraiment le remercier de ça, parce que ça fait plusieurs fois que je viens, soit comme auteur, soit comme spectateur, à lire les sciences sociales. Mais je suis encore plus aujourd'hui convaincu de la pertinence de la formule et de son intérêt pour faire vivre les enquêtes qu'on publie. Donc vraiment, merci beaucoup, y compris pour avoir d'ailleurs mis en valeur des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé. Je vais y revenir. Alors, je vais essayer de reprendre les questions les unes après les autres et de pas prendre trop de temps pour laisser aussi un peu de temps à la discussion. D'abord, la question de la temporalité de l'enquête qualitative. Et même de la temporalité de l'enquête en général. J'ai conscience que il y a beaucoup de choses qui sont dans cet ouvrage, qui sont esquissées, qui sont pas assez développées, pas assez approfondies. Et c'est vrai que j'avais, à tort ou à raison, plutôt à raison rétrospectivement, un sentiment d'urgence à vouloir publier les résultats de cette enquête quantitative et aussi la somme de mes enquêtes qualitatives, mais en fait, mes enquêtes qualitatives, elles sont plus anciennes, en fait. Si je veux revenir sur la temporalité de l'enquête pour ouvrir un peu les cuisines, en fait, ma conviction de vouloir travailler non plus sur l'administration, comme je l'avais fait dans les précédents livres, mais de passer de l'autre côté du guichet et de travailler sur les contribuables, sur les gouvernés, sur la population, elle remonte, en fait, on pourrait dire à 5-6 ans, notamment 2013, où ça part en fait d'un énervement sur la question du ras-le-bol fiscal et d'une espèce de façon de marteler dans le débat public les contribuables ceci, les contribuables cela, et l'idée que c'est quand même bizarre que on puisse pas, disons, apporter une contribution sociologique à la critique de ce débat public en y insufflant à la fois des questions voilà, de morphologie sociale, de distinction selon les générations, etc. Donc ça part de là. Et l'enquête qualitative, voilà, elle a été accumulée au fil du temps. Le temps d'observation de l'enquête qualitative, c'est vrai que c'est très long. Pour le coup, ça a démarré, en fait, parce que je faisais de l'observation du côté des agents, d'abord, hein, puisque ça fait quand même maintenant plus de 10 ans que je travaille sur l'impôt, mais je travaillais sur... j'ai travaillé d'abord en faisant des enquêtes, et c'est très important de savoir de quel côté du guichet on se situe, hein, encore une fois, mais du côté des agents, c'est-à-dire qui recevaient des usagers, des contribuables qui venaient discuter l'impôt, négocier l'impôt. Et évidemment, je commençais à emmagasiner des observations sur ce que disaient les contribuables, même si j'étais plutôt centré sur les réponses de l'agent, mais comme c'était des interactions, voilà. Donc je pourrais presque dire que... mais c'est vrai que l'enquête qualitative, elle est très longue aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai, pour le coup, comme pour reprendre ton idée, capitalisé, en fait, toutes ces années où en enquêtant sur les agents, j'ai aussi implicitement accumulé des choses sur les enquêtés. Et ensuite, voilà, est venue cette opportunité de l'enquête Ellipse. D'abord l'échantillon pilote en 2016, puis l'échantillon, gros échantillon, donc sur 3000 personnes en 2017. Et un sentiment d'urgence à vouloir écrire, parce que j'avais accumulé énormément de matériaux d'un point de vue qualitatif, et que je voulais pas que cette enquête vieillisse, en fait, parce que des fois, on peut, on, peut prendre plus de temps. Et là, j'avais vraiment envie de... En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de, disons, de publier sur ces, toutes ces observations qualitatives accumulées, et que mon idée, c'était de leur donner, disons, une dimension quantitative à travers cette enquête. Et de ce point de vue-là, l'enquête quantitative a confirmé pas mal d'intuitions. Alors voilà, et donc c'est assez long. Alors pour le protocole d'enquête, pourquoi c'est long ? Parce que d'abord, la quasi-totalité des extraits d'entretien, c'est moi qui les ai faits. En fait, les observations, c'est moi qui les ai conduits. J'insiste là-dessus parce que plus on avance dans la carrière, plus c'est compliqué de faire du terrain. Et le CNRS... Et voilà, il faut encore le rappeler, hein, donne cette opportunité incroyable de pouvoir faire des recherches et de continuer à faire des recherches, même quand on avance et même quand on est pris par plein de tas de tâches administratives. On a encore du temps pour faire des recherches, et donc j'en ai aussi profité. Mais c'est vrai que c'est long. Pourquoi ? Parce que donc, je crois qu'il n'y a qu'un entretien qui doit dans le livre que je n'ai pas fait et que je mentionne comme un entretien d'une étudiante. Mais pourquoi c'est long ? Parce que voilà, je me situe dans la salle d'attente, j'accompagne la personne au guichet, et ensuite je repars avec la personne, on s'échange les numéros, et en général, je fais un entretien approfondi plus tard, en fait, une fois que le résultat de la décision est prise. Donc tout ça, évidemment, prend du temps, et c'est pas possible, ça aurait pas été possible si j'avais démarré il y a un ou deux ans, en fait. Si ça a été possible, c'est aussi parce que j'ai démarré il y a plusieurs années. Deuxième petite remarque sur le niveau de compétence en matière fiscale. Là, j'ai tout de suite... Et le fait que les contribuables apparaissent finalement pas si incompétents que ça. Hein. Là aussi, j'ai vu à quel point les statistiques sont construites. Alors, c'est une tautologie, mais je pourrais le démontrer ici. C'est-à-dire que on a fait deux questionnaires, en fait. On a fait l'échantillon pilote. C'était sur 700 personnes. Au départ, c'était 1000, mais en fait, comme on arrivait en queue de panel longitudinal, il en restait plus que 700. Et puis, donc, l'échantillon maître avec 2900 qui se sont transformés en 2600 et quelques 96, quelque chose comme ça. Et dans l'échantillon pilote, donc où on a testé un premier questionnaire, on avait d'abord, voilà, on voulait tester la compétence fiscale. Alors évidemment, on n'avait pas posé la question aux gens, est-ce que vous y connaissez en matière d'impôts, est-ce que vous êtes fort en fiscalité, ça n'a pas de sens. Et j'ai essayé de chercher une question, un peu un proxy pour mesurer cette compétence, et je trouvais que le fait de se repérer entre impôt proportionnel et impôt progressif pouvait être un bon proxy. Et dans l'échantillon pilote, on a demandé, est-ce que l'impôt sur le revenu, c'est proportionnel ou progressif ? Est-ce que la TVA, c'est proportionnel ou progressif ? Sans préciser. Et là, on a des taux d'erreur et de ne sais pas qui sont très importants. Et ensuite, on écrase pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si la personne, dit qu'elle ne sait pas ou qu'elle se trompe parce qu'elle ne sait pas vraiment comment fonctionne l'impôt, parce qu'elle n'a pas compris le terme proportionnel et progressif, et parce qu'en plus, ça introduit un clivage, comme c'est un questionnaire sur tablette, mais tout ça, je n'ai pas pu l'expliquer dans le livre, qui a un peu une prétention en vue, donc il y a pas mal de choses méthodologiques que je n'ai pas pu expliciter. Comme c'est un questionnaire sur tablette, comme tu l'as très bien expliqué, en fait, on sait très bien qu'il y a des gens, quand ils croisent un terme comme ça qui suppose une compétence, ils vont aller chercher la signification du terme. Ils vont aller chercher, ils disent « Ah, proportionnel, progressif, je ne me souviens plus bien, donc je vais chercher sur Internet. » En plus, c'est facile, c'est sur la tablette. Et, voilà. Et donc, on risquait d'introduire un biais entre ceux qui allaient avoir l'idée d'aller voir la signification du terme et qui allaient répondre ensuite, et ceux qui n'avaient pas envie d'aller voir, n'avaient pas le temps ou ne trouvaient pas la nécessité. Et donc, pour neutraliser ça, dans le questionnaire final, c'est-à-dire de 2700 personnes, on a explicité le fait qu'un impôt proportionnel, c'est un impôt où le taux est le même pour tous, c'est un impôt progressif, c'est un impôt pour lequel le taux augmente à mesure que le niveau de richesse augmente. Mais on l'a précisé dans le questionnaire, d'une certaine manière, pour neutraliser ce biais d'enquêter. Et du coup, nos enquêtés, ils apparaissent assez compétents, pas complètement compétents, mais ils apparaissent peut-être plus compétents qu'ils ne le sont, puisqu'on ne leur a donné la définition. Mais même en leur donnant la définition, il y en a encore beaucoup qui disent qu'ils ne savent pas, ce qui permet d'isoler vraiment des gens qui savent vraiment pas, puisqu'on leur a dit, on leur a expliqué ce que c'était, et des gens qui se trompent, et du coup, là, qui se trompent de façon, j'ai envie de dire, réelle, puisque c'est pas un malentendu sur le terme, même si on pourrait dire que ça a sa signification aussi. Dans un article méthodologique, je pourrais comparer ces deux manières. Mais on voit bien que là, on peut tout à fait construire une compétence ou une incompétence, selon si on précise le sens des mots qu'on utilise ou si on le précise pas.
Enfin, la CSG, ils sont quand même pas très compétents.
Alors, ce qui est très frappant, effectivement, c'est que même quand on précise, la CSG, de mémoire, hein, c'est 19% de gens qui ne savent pas si c'est proportionnel ou progressif, alors qu'encore une fois, c'est un prélèvement qui touche tous les revenus, donc par définition, toute la population, enfin, quasi, sauf les gens qui touchent aucun revenu, mais en fait, des gens qui touchent aucun revenu dans la population entre 18 et 75 ans, il n'y en a pas beaucoup. Et ça permet de rendre évidemment beaucoup plus saillant l'incompétence une fois qu'on a précisé qu'on a explicité le sens des mots. Le sentiment d'injustice par rapport au service public et son historicité. Ça, c'est évidemment une grande frustration de ma part, parce que j'ai cette sensibilité de vouloir, je crois qu'on a tous ici, de vouloir historiciser évidemment les questions sociales et le regard sociologique qu'on peut porter sur la réalité. Et en matière d'impôts, c'est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que, d'abord, parce que là aussi, il faut le dire et il faut le souligner, l'impôt a jamais beaucoup intéressé les sociologues français, en tout cas. Il a beaucoup intéressé des sociologues dans d'autres pays, mais pas du tout en France. C'est renforcé par le fait que l'administration fiscale n'a pas du tout envie que des sociologues s'intéressent à ce qu'elle fait. Et du coup, c'est très difficile d'historiciser parce que on manque d'enquêtes sociologiques, en fait, et que voilà, quand on travaille sur l'immigration, on peut presque égrener les enquêtes depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui sur la population immigrée. Quand on travaille sur le travail, on peut aussi je pense pas mal historiciser à partir des enquêtes sur le travail. Quand on travaille sur l'impôt, voilà, il y a une enquête d'un psychosociologue qui est vraiment pas très convaincant, qui a publié des choses, son nom m'échappe, mais ça va me revenir, dans les années 50-60, et qui sont centrés sur l'impôt sur le revenu, où ils ne s'intéressent que à l'impôt sur le revenu. Et voilà. Et en fait, alors, il y a les sondages, mais les sondages, bien souvent, c'est des questions sur qu'est-ce que vous pensez de la fraude fiscale ? Est-ce que vous pensez que c'est bien ou que c'est pas bien ? Est-ce que vous avez confiance, éventuellement, dans l'administration ? Et finalement, sur cette question de la contestation de l'impôt ou ce qu'on appelle aujourd'hui, et finalement c'est un terme assez récent dans le débat public, le ras-le-bol fiscal, ben en fait, moi j'ai eu beaucoup de mal, et si vous en avez, je suis extrêmement preneur, j'ai eu beaucoup de mal à historiciser. Dans le chapitre 8, j'ai pu le faire parce que j'ai dégoté, disons, une enquête de 1970 sur le rapport à l'État où on posait des questions sur, pour vous, qu'est-ce que c'est que les fonctions les plus importantes de l'État, et où j'ai pu reprendre en fait les mêmes items et essayer de voir comment il bougeait d'une période à l'autre. Alors ça me permet de répondre à une autre objection qui est, à mon avis, extrêmement importante et évidemment que j'avais en tête, c'est est-ce que ça a du sens de travailler sur, voilà, sur du mou comme ça, sur des représentations, sur des attitudes, et de finalement céder d'une certaine manière à la posture de sondeur, en fait. Hein. J'ai conscience d'avoir presque fait ça. Et alors, peut-être que là, ça mérite une petite explication. C'est que mon idée, c'est que, en tout cas, sur l'impôt, les données dont on dispose, comme tu l'as très bien dit, c'est soit des données de sondage, soit des données d'enquête européenne du type European Social Survey, European Value Survey, qui sont effectivement des enquêtes sur des sentiments, des attitudes, des représentations. Est-ce que vous avez confiance dans l'impôt ? Qu'est-ce que vous pensez de la fraude fiscale ? Est-ce que vous pensez que c'est bien de redistribuer ? Enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec les redistributions ? Et en fait, on explique des représentations par d'autres représentations. Et regarde, est-ce que vous êtes, enfin voilà, est-ce que les gens sont à la fois pour la redistribution et en même temps xénophobes, ou au contraire, est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont pour la redistribution mais en même temps contre la cistana, enfin bon, bref. Et on relie toujours, et c'est le problème des sondages à mon avis, des représentations et des représentations. Et là, le coup de force que j'ai essayé de faire, mais du coup, ça supposait évidemment de me mettre sur leur terrain, c'est de montrer que ces représentations, elles sont ancrées dans des pratiques et d'expliquer ces représentations par des pratiques. Et ces pratiques, elles se mesurent de deux façons dans l'ouvrage, mais ça, tu l'as vraiment extrêmement bien présenté, donc merci, ça me aussi facilite la tâche pour répondre maintenant. C'est à la fois des questions sur des pratiques dans le questionnaire. Qui est-ce qui remplit la déclaration d'impôt ? Est-ce que quand vous remplissez votre déclaration d'impôt, vous vous relisez, vous corrigez, ou au contraire, vous signez sans regarder, etc. Donc ça, c'est des questions de pratique qui valent ce qu'elles valent, parce que c'est toujours des questions sur ce que disent les gens de leur pratique. Et puis des observations d'attitude au guichet. Et, enfin, voilà. Et donc, évidemment, le coup de force, il est là. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire, au-delà de l'explication par les classes sociales ou par l'explication par les différences sociales, les différences territoriales, c'est aussi que finalement on pourrait faire, qui est très peu fait dans les sondages, mais qu'on pourrait faire en fait si on avait les bonnes données des sondeurs. C'est aussi, disons, une dimension que là, on pourrait pas faire apparaître faute de questions sur les pratiques. Voilà. Donc ça, j'ai répondu. Je vais accélérer. Voilà. Comment interpréter les réponses sur l'État, la justice Enfin, ça, j'ai un peu répondu. Voilà. Comment choisir les entretiens? Ça, c'est une question importante. C'est vrai que j'ai pas fait le choix des portraits parce que c'est vrai que j'ai mis les statistiques au centre, en fait, d'une certaine manière, et que ce choix-là de mettre les statistiques au centre relègue un peu les entretiens et le qualitatif au rang d'illustration. Sur le chapitre, enfin, j'ai pas grand chose à ajouter sur peut-être spécifié par séquence. C'est vrai que le chapitre 8 sur l'état souterrain. Il est finalement très, très général, pas assez sans doute historicisé. Mon objectif là, c'était vraiment de faire apparaître quelque chose statistiquement. Là aussi, en fait, pour beaucoup, l'enquête statistique, elle a été aussi construite pour essayer de faire ressortir statistiquement des choses que j'avais senties empiriquement sur les précédentes observations. Et donc, du coup, effectivement, c'est peut-être pour ça que ça manque de dynamique historique. Je suis assez d'accord. Et notamment... et notamment des séquences. Alors, sur la chaîne des acteurs, là aussi, je suis complètement d'accord. Ça fait partie des manques. Et alors là, pour... comme boutage, j'avais conscience, en fait, en accélérant, parce que le questionnaire, en fait, il a été passé en février 2017. On a eu les premiers chiffres, en fait, en juin 2017. Et donc, voilà. Donc, j'ai écrit, en fait, en grande partie, l'ouvrage, même si j'avais quand même pas mal commencé avant, mais entre juin 2017 et avril 2018, quoi, en fait. Donc, avec le sentiment que c'était une manière de poser un jalon sur un sujet qui était encore quand même assez en friche du point de vue de la sociologie française et voilà qui allait être critiqué sans doute et prolongé par la suite, mais ça me semblait important de le poser comme étape. Dernier point, l'inspiration bourdieusienne. Ah oui, alors d'abord merci parce que c'est en grande partie franchement inconscient, c'est-à-dire que moi j'ai été formé en grande partie à la sociologie de Bourdieu, et puis en même temps ça fait partie, j'ai envie de dire, de ma socialisation primaire, et puis ensuite j'ai navigué dans d'autres univers théoriques sans jamais relier évidemment cette socialisation primaire, et en allant sur l'impôt j'ai l'impression d'une certaine manière d'aller sur un terrain où Bourdieu était assez peu allé. Évidemment il en est question dans son cours sur l'État. Évidemment, il en est question, disons, mais c'est des références qui sont quand même assez ténues, quand même, à mon avis, dans l'œuvre. Et donc, du coup, j'y suis allé de façon un peu, on va dire, décomplexée, en me disant, de toute façon, on est sur un terrain où il est. Sinon, je vais expliciter même plus loin, c'est que moi, j'ai souvent, sur beaucoup de sujets, l'impression de redire en plus mal ce qu'a déjà dit Bourdieu, donc c'est pas hyper satisfaisant. Et donc là, je me disais, au moins, on a un sujet où on risque pas de dire en plus mal ce qu'il a déjà dit, puisqu'il en a pas parlé. Et alors, du coup, c'est aussi pour ça que peut-être j'ai pas réutilisé explicitement, sauf quand même à certaines mentions. Et alors, notamment ce que tu dis, ça m'était pas du tout apparu, d'avoir reproduit la distinction. Évidemment, j'avais la distinction en tête, parce que quand on s'intéresse à l'espace social et aux différences sociales, évidemment, c'est ce modèle-là que j'ai en tête, mais pas au point de la correspondance que tu mentionnes entre faire de nécessité vertu et choisir la contrainte. Ça, alors là, pour le coup, j'avais pas conscience de cette parenté-là, donc voilà, on va mettre ça sur le compte de la socialisation primaire inconsciente. Mais voilà, c'est vrai que mon idée, c'était de quand même, évidemment, d'essayer, alors non pas de refaire la distinction, mais disons de m'inspirer de cette analyse très fine du rapport entre positionnement et prise de position, etc., sur la question, enfin, en essayant de l'appliquer sur la question de l'impôt, en fait. Position, disposition et prise de position, en fait, voilà. Et voilà, sur la comparaison internationale, c'est vrai qu'il y a beaucoup la comparaison américaine, parce que aussi c'est là où on a peut-être, enfin où j'ai pas mal lu d'études sur la sociologie de l'impôt. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faudrait, davantage comparer avec les pays européens. Mais voilà, je manque encore de collègues, d'interlocuteurs sur ces sujets-là, parce que les collègues et les interlocuteurs qu'on a, ils sont juristes, ils sont économistes, et que c'est parfois difficile de discuter ce terrain-là. En tout cas, merci énormément pour la présentation, extrêmement fidèle, et qui va, par certains côtés, beaucoup plus loin que le livre, et qui donne évidemment, enfin qui me donne pas mal d'idées pour prolonger. Donc vraiment merci.
Bon, eh bien merci. Donc le sentiment, enfin, que l'on retient, enfin, c'est ce sentiment de rejet massif ou très, très, très sensible, très important de l'impôt dans différentes catégories. Simplement, enfin, une question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il quand même des effets correcteurs de la socialisation politique, en particulier à gauche? Alors là, je ne sais pas si tu as pu analyser ça, en fonction du vote, est-ce que les gens peuvent dire oui, quand même, l'impôt, ça sert, etc., le service public, voilà. Voilà. Autre manière de poser la question, au fond, dans cette population, y a-t-il un noyau véritablement attaché à l'impôt? Est-ce que c'est, de manière non surprenante, les fonctionnaires, ou y en a-t-il d'autres? Voilà.
Alors, merci pour ces deux autres questions. Alors, la question du vote, c'est vrai que je m'y suis assez peu intéressé dans l'ouvrage, parce que, pour plusieurs raisons. Alors d'abord, je ne l'ai pas complètement écartée dans le sens où elle est présente dans le questionnaire, elle est présente notamment dans la régression logistique que j'ai essayé de mentionner, puis, et aussi dans l'analyse factorielle. Mais en fait, elle montre plusieurs choses. C'est que d'abord, enfin, ce que j'ai utilisé, c'est en gros sur le positionnement de droite-gauche et d'intégrer la question du positionnement de droite-gauche, où on voit sans trop de surprise que voilà, l'exaspération à l'égard du niveau d'impôt, elle est beaucoup plus marquée à droite chez les gens qui se marquent à droite que chez les gens qui se marquent à gauche. Mais le premier sujet d'étonnement, c'est le nombre de gens qui se situent au centre, et le fait que on peut, enfin voilà, de mémoire, il y a plus d'un tiers de l'échantillon qui se situe au centre, avec ça, enfin, donc ils veulent pas se positionner, ou alors qu'ils disent qu'ils savent pas, qu'ils veulent pas se positionner sur une échelle droite gauche, étant entendu que c'est pas forcément des gens qui sont au centre, qui votent au centre, mais ça peut être des gens qui votent tantôt à droite, tantôt à gauche, qui ont pas envie de se, voilà. Donc cette question du positionnement politique, elle est difficile à utiliser. Et moi, ce que je voulais beaucoup plus montrer, et encore une fois, enfin, je veux dire, en tout cas du point de vue du questionnaire, elle confirme ce qu'on savait un peu déjà. Mais l'enjeu plus important à démontrer, c'était que toute chose égale par ailleurs, même si on tenait compte de cette opposition droite-gauche, il restait des variables sociologiques lourdes, comme le statut fonctionnaire indépendant, comme l'appartenance, la position sociale, classe populaire versus classe supérieure, qui restaient extrêmement significatives, y compris quand on tenait compte de cette opposition droite-gauche, et que donc c'était d'une certaine manière, voilà, l'intégrer dans l'analyse pour pas qu'on puisse me dire ah, mais il faut pas l'oublier, et en même temps pour bien montrer que il y a au-delà de cette variable-là des variables sociologiques qui sont très importantes. Alors petite différence là aussi, et même j'ai envie de dire peut-être infidélité faite à la distinction, c'est que j'ai repris en fait la notion de classe supérieure qu'on prenait effectivement dans le livre Classe sociale en Europe, c'est-à-dire en fait au sens très large, et c'est pour ça que je dis pas classe dominante d'ailleurs, c'est-à-dire en gros 20% de la population, c'est-à-dire les cadres supérieurs du public, les cadres supérieurs du privé, les professions libérales, et pas du tout la classe dominante qui, en fait, pour parler de classe dominante, il faudrait, et au sens de Bourdieu, etc., je pense qu'on serait sur un groupe quand même beaucoup plus restreint. Et voilà, là, c'est un peu une insatisfaction. Alors là, et une impossibilité aussi de discuter avec les économistes, c'est que les économistes, et notamment Piketty dans ses analyses, ce qui l'intéresse, c'est vraiment les 1%, quoi. Et là, dans une enquête statistique représentative de la France entière, bah les 1%, voilà, sur une enquête de 2900 personnes, et bah on ne peut rien en dire, en fait, ou quasiment rien.
Personne.
Comment ?
Il n'y a personne.
Voilà, c'est ça. Et donc, il faudrait faire une enquête sur les 1%, si tant est qu'on puisse y accéder. Et ça, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, donc c'est aussi pour, là pour le coup, faire de nécessité vertu, de prendre une vision très large des classes supérieures, qui n'est pas tout à fait... celle de la distinction, où à mon avis la notion de classe dominante, elle est, enfin justement, elle est quand même plus restrictive, et avec donc voilà, et le rôle du vote, et la deuxième question, du coup je l'ai perdue,
le noyau attaché à l'impôt.
Ah oui, le noyau attaché à l'impôt. Non, mais c'est vrai que ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens avec qui c'est difficile de faire des entretiens sur l'impôt, et c'est pour ça que j'ai choisi de le faire au guichet des finances publiques du régime social des indépendants ou à l'URSSAF. C'est que c'est une situation sociale où la question se pose. Et que quand on fait des entretiens à froid, parce que j'ai essayé aussi ça, en fait, hein, de faire des entretiens comme ça, avec des gens qu'on rencontre dans des lieux neutres, j'ai envie de dire, ben en fait, il y a beaucoup de gens qui disent ben, je me pose pas la question, ou l'impôt, ça me barbe, ou c'est une nécessité avec laquelle, etc. Enfin, et donc voilà, il me semble que le noyau, s'il fallait donner un noyau qui est particulièrement sensible à la question d'impôt au départ, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est les indépendants, parce que c'est la catégorie pour laquelle sans doute les prélèvements sont les plus visibles et voilà, et les plus sujets à attention, parce que c'est eux qui sortent de leur chiffre d'affaires vraiment l'impôt, et le fait que ça soit pour les salariés prélevé très différemment, évidemment, change les choses, mais voilà, donc ce noyau concerné par l'impôt, j'ai envie de dire, et puis la fraction, voilà, la fraction économique des classes supérieures, parce que on tombe sur les professions, enfin là, en partie des indépendants d'ailleurs, les professions libérales, ceux qui ont du capital et ceux voilà qui, mais le encore une fois la surprise des résultats, c'est quand même de voir que cette question de l'impôt, que a priori on attribuait à ces groupes-là, elle commence, et je pense depuis plusieurs années, et c'est dommage qu'on puisse pas l'historiciser, ou en tout cas pour l'instant j'ai pas les moyens de le faire, elle commence à devenir centrale pour les classes populaires, et elle commence à devenir centrale du coup pour la redéfinition des groupes sociaux, et là on le voit bien dans le mouvement des Gilets jaunes, où ce que j'essayais de montrer pour le mouvement des Bonnets rouges, en fait ça applique assez bien aux Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on bascule de la question pour répondre au problème du pouvoir d'achat, de la question salariale à la question fiscale, où on n'est plus dans la revendication de plus de salaire, mais on est dans la revendication de moins d'impôts, pour tout un tas de raisons que j'essaye d'expliquer dans ce chapitre 1, bah, du même coup, les alliances sont plus forcément les mêmes, et ça rend possible des alliances entre les salariés et les indépendants, qui peuvent se retrouver de façon ponctuelle et en tout cas avec beaucoup de malentendus sur la revendication de moins d'impôts. Et c'est ce qui se passait déjà pour les Bonnets rouges et ce qu'on retrouve sur les Gilets jaunes. Et ça, ce que j'essaye de montrer un peu pour essayer de convaincre de mon affaire mes collègues sociologues, c'est que ça modifie quand même pas mal la topographie des positions sociales. Le fait que cette question-là devienne relativement centrale. Ah oui, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est la quantification. Est-ce que c'est moins intense ou plus intense qu'avant ? Je pense que c'est vraiment, alors là, pour le coup, un chantier de recherche que je trouve extrêmement stimulant. Je n'ai pas du tout la réponse. Je n'ai pas du tout la prétention de l'avoir fait ou d'avoir essayé de le faire, mais je suis convaincu qu'il faudrait le faire. L'intuition que j'avais, c'est que, voilà, évidemment, quand on travaille sur l'histoire longue, et c'est ce qu'on avait essayé de faire dans l'histoire sociale de l'impôt, et qu'on a en tête les grandes révoltes fiscales de l'Ancien Régime, de la Révolution française, le 19e siècle, l'entre-deux-guerres, etc., qui se termine avec, en partie quand même avec Poujade, et je ne sais pas s'il faut intégrer ces idées unatives. Bon, les luttes sur le carburant au début des années 2000, des camionneurs, etc., des marins-pêcheurs, bon, ça a l'air vraiment résiduel, quoi. Mmh. Évidemment, là, après, on arrive sur les bonnets rouges. Bon, c'est quand même limité à un département. Bon, avec les gilets jaunes, ça, c'est sûr que ça rebat les cartes, quoi. Du coup, on est amené à se reposer la question de l'intensité de ces mouvements.
Bien, merci. Eh bien, le moment est venu de distribuer la parole tout autour de la table.
Voilà. Quels sont les impôts invisibles ? Tu as dit qu'il y avait de plus en plus d'impôts invisibles, ou je me suis trompée ?
Non, c'est ça.
C'est ça, voilà. Est-ce que tu peux donner des exemples de ça ?
Ah ben, l'exemple qui est le plus parlant, je pense, c'est la CSG. C'est-à-dire la... Alors attention, quand je dis impôts, je ne l'ai pas dit au début, mais je le dis au sens de, non pas... de la rigueur juridique, mais au sens sociologique, c'est-à-dire au sens profane, c'est-à-dire, en fait, quand on fait des entretiens avec les gens, les impôts, c'est tout ce qu'on nous prend. Donc ça mélange des impôts, des taxes, des cotisations. Et de ce point de vue-là, y a quand même de plus en plus d'impôts. Alors, effectivement, ce que j'appelle invisible, pourquoi ? Parce que, en fait, la part d'impôts progressifs, qui sont les impôts les plus visibles, en l'occurrence, l'impôt sur la fortune et l'impôt sur le revenu, a tendance à se réduire considérablement dans l'ensemble des recettes fiscales, parce que justement, hein, la progressivité du système se réduit au profit d'impôts proportionnels et d'impôts proportionnels qui sont relativement invisibles. Donc le meilleur exemple, c'est la CSG qui démarre en gros avec Rocard à 1% au début des années 90 pour arriver aujourd'hui à 9,6% sur tous les revenus. Encore une fois, c'est important d'y insister, parce que par exemple, pour répondre à la question de Louis, enfin, je sais pas si je peux anticiper ce que va dire Macron ce soir, mais enfin, si je peux dire au moins quelque chose, il y a une chose est sûre, c'est qu'il parlera pas de la CSG justement, et que parce que il y aurait une réponse qui serait de rendre progressive la CSG pour rendre du pouvoir d'achat aux petits revenus et rappeler que contrairement à tout ce qui est dit dans le débat public, on a deux impôts sur le revenu en France. En fait, on a un impôt qui effectivement est payé par 40% des foyers, mais qui est restreint à la portion congrue, qui est l'impôt sur le revenu, qui rapporte 70 milliards d'euros par an. Et puis on a un plus gros impôt sur le revenu, qu'on appelle CSG, dont on parle assez peu, si ce n'est pour les retraités, qui, lui, taxe tout le monde au même niveau, c'est-à-dire que vous gagnez 500 euros ou 20 000 euros par mois, voilà, c'est le même taux, et dès le premier euro, et pour tout le monde.
La flat tax.
Voilà, c'est la vraie flat tax. Alors pourquoi je dis qu'il est invisible ? Parce que ce qui est frappant, c'est que c'est donc celui, encore une fois, qui est payé par tout le monde, et celui qui est céder au travers des sondeurs. Je me suis intéressé à ceux qui disent « je ne sais pas » ou « je n'ai pas d'idée », ou etc. Et 19% des répondants disent qu'ils ne connaissent pas la CSG. Donc c'est le taux le plus important. Et avec des exemples aussi d'entretien où, quand je pose la question, on me dit « Ah non, la CSG, je ne paye pas ça. La CSG, ça ne me dit rien. » Ou à partir du moment où les gens touchent des revenus, évidemment, ils le payent. Alors on pourrait prendre d'autres exemples d'impôts invisibles. Bah, tout ce qui est des impôts sur les énergies, en fait, qui ont beaucoup augmenté, pour le coup, récemment. Sur les carburants, sur l'électricité, sur le fuel domestique, hein, parce que dans les zones rurales, évidemment, c'est une dépense qui pèse. C'est essentiellement à cela que je pensais, en fait.
Bah,
un peu dans cette logique-là. Moi aussi, je trouvais que j'allais aller sur l'état souterrain aussi, ces questions-là, parce que tout à l'heure, Frédéric avait, je ne sais plus comment, il a commencé, tu as commencé sur la manière discrète. Et je me suis dit que cette discrétion du départ allait terminer sur l'état souterrain. Finalement, ce n'est pas venu complètement à des discussions. J'aimerais bien refaire le lien sur justement cette répartition entre ce qui relève de l'état visible et l'état souterrain, cette dimension cachée des politiques sociales. Comment est-ce que, comment ça se joue? Est-ce que c'est lié à un état fort, un état faible? Est-ce que finalement on invisibilise parce que l'État n'est pas en mesure d'imposer, de publiciser, de médiatiser sur la CSG? Ou est-ce qu'il n'a pas intérêt à le faire pour rendre les choses plus politiquement correctes? Vous avez parlé tout à l'heure l'un et l'autre d'hypocrisie, ou pour rendre les choses acceptables, pour permettre l'adhésion, on pourrait dire, d'une certaine manière. Et finalement, je me demandais aussi si le fait d'invisibiliser, moi ça m'intéresse sur les services publics notamment, parce qu'on voit bien que ça crée quoi, cette dimension un peu souterraine, c'est des faces immergées de l'iceberg, pour reprendre le bouquin en anglais, mais il y a des effets de report. On voit bien sur, quand c'est pas l'État central, ça se reporte sur les collectivités locales. On voit bien sur des choses que l'État central part en retrait, donc ça se reporte sur les communes en général. On voit après tout l'effet fake news que ça permet de porter. Je vois bien, ayant travaillé sur La Poste, qu'on est tout le temps sur, et encore aujourd'hui, La Poste payée par l'impôt des Français. Donc ça, moi, je l'entends parler d'impôts. À chaque fois que je suis sur quelque chose qui relève de La Poste, on me dit « c'est nos impôts ». Et c'est faux, puisque La Poste, ça relève d'un budget annexe depuis 1923, donc depuis assez longtemps. Et en fait, ils équilibrent, ils sont dans l'obligation d'équilibrer leurs comptes, donc de limiter les déficits, même s'ils ont des déficits, avec leur rentrée d'argent, d'où des stratégies de diversification. Mais parce que justement c'est complètement souterrain, eh bien ça crée sur en effet les Français une sorte d'attachement et en même temps de rejet aussi de nos services publics, puisque si La Poste n'est pas efficace, c'est aussi parce que ce sont nos impôts qui payent. Mais sauf qu'en fait non, c'est La Poste qui doit assumer le fait qu'on distribue la presse avec des déficits de base, puisque l'État ne rembourse pas, le reste à charge postal est plus élevé que ce que le service leur coûte. Donc ce qui met des entreprises publiques en situation extrêmement difficile, puisqu'elles ne sont plus en mesure, ne bénéficiant plus des impôts, de remplir. Donc je ne sais pas quel est l'intérêt de maintenir ces flux, ces productions de façon souterraine, puisqu'il y aurait peut-être intérêt. Et je ne comprends pas, moi, par exemple, pourquoi La Poste n'a jamais médiatisé ça, pourquoi on ne médiatise pas certaines, on ne publicise pas, on ne rentre pas dans l'espace public. Ces choses-là qui permettraient d'expliquer aussi peut-être la détérioration des services publics aujourd'hui.
Oui, oui, alors ça, c'est presque un chantier. Enfin, moi, j'ai conscience d'être là face à un chantier de recherche énorme, oui, à mon avis, qui est assez peu exploré, ou peut-être des choses que je ne connais pas, mais parce que... Et donc, pour moi, le chapitre que j'ai consacré est sans doute très insuffisant. C'est le produit de la lecture de cet ouvrage de Suzanne Metler, hein, qui s'appelait The Submerged State, que j'ai trouvé quand même assez éclairant, et que j'ai utilisé pour écrire ce chapitre, en ayant la conviction que, en fait, je touchais là du doigt quelque chose qui était extrêmement difficile à mesurer, qui était extrêmement prolifique du point de vue des sphères sur lesquelles on pouvait l'appliquer. Et en tout cas sur La Poste. Alors pour répondre sur La Poste, moi j'ai très bien senti ça aussi, parce que de fait j'ai posé cette question des services publics, et La Poste vient très souvent dans les réponses des entretiens comme exemple de service public, alors que voilà, on sait que c'est pas le cas. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait de cet aspect-là? Alors j'ai envie de dire, ça c'est un autre aspect d'une certaine manière, parce que c'est presque le contraire, c'est quelque chose qu'on prend pour un service public alors que ça n'en est pas un. Mais ce que j'ai essayé de faire dans cette notion de... Enfin voilà, c'est d'en mesurer une part, mais je suis sûr que je ne l'ai pas fait de façon assez approfondie, qu'on peut le faire plus et surtout on peut le sociologiser davantage. Ce que j'ai listé un peu de façon désordonnée, mais qui apparaissait beaucoup dans les entretiens, c'est le fait que il y a quand même énormément de prestations qui sont rendues possibles par l'argent public sans que ça soit visible. Et c'est notamment, alors là on n'en a pas encore parlé, mais c'est toutes les pratiques culturelles qui concernent beaucoup pour le coup les classes supérieures, mais le fait d'aller à l'opéra, au théâtre, et de croire que on paye le prix du spectacle qu'on voit, c'est l'école privée évidemment, hein, où on croit que les petites sommes qui sont demandées, disons, couvrent la majorité des coûts qui sont induits, alors que en fait la quasi-totalité sont financés par l'argent public. Voilà. C'est tous ces exemples-là, et je suis sûr qu'il y en a énormément d'autres. On pourrait prendre les sociologiser, c'est-à-dire y compris les ventiler en fonction des classes sociales qui les utilisent, en fait, hein, les aéroports par exemple, puisqu'il y en a des questions aujourd'hui, qui sont aussi d'une certaine manière des infrastructures jusqu'à maintenant en grande partie publiques, hein, et qui sont pas comme telles. On pourrait parler de l'université, des classes préparatoires, enfin voilà, les exemples sont pléthoriques, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on mesure pas, ou qu'on n'a pas assez mesuré, et donc c'est sur ça que c'est sur cet aspect-là que j'ai voulu insister. Alors, juste pour terminer sur la question, c'est vrai que voilà, c'est en partie une organisation, voulue de cette invisibilité, c'est-à-dire qu'il y a certaines prestations dont on ne parle pas, et qu'on rend invisibles parce qu'on n'a pas envie de dire que c'est financé par le public. On pourrait prendre l'exemple de l'école privée, par exemple. On n'a pas envie de dire que c'est un dispositif qui est en fait entièrement assuré par l'argent public. On pourrait parler des niches fiscales, hein, et de tout ce que ça rend possible, l'argent public rend possible en matière de niches fiscales. Et voilà. Mais il y a une partie, et j'ai peut-être moins insisté là-dessus dans l'ouvrage, mais j'en ai conscience, de cette invisibilité qui est liée aussi à une méconnaissance, en fait, de la part des contribuables. Et tout n'est pas, le produit d'une volonté politique. Il y a aussi une méconnaissance de ce que recouvre, justement, le système fiscal, le système d'infrastructure publique, et qu'il ne faut pas négliger non plus, en fait, hein, et qui, là, pour le coup, remet au centre la variable du capital culturel et de ce qui permet de voir et de comprendre du monde qui nous entoure, et qui explique en partie l'incompréhension des fois par rapport au niveau d'impôt. C'est que précisément c'est aussi lié à une variable de capital culturel, et voilà. Donc sur la question de la pause, j'ai envie de dire que c'est plus ce versant-là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, enfin voilà, je pense qu'il y a un versant produit d'une politique publique d'invisibilisation, et il y a un autre versant produit d'une méconnaissance de ce que recouvre l'État et le système fiscal par défaut de capital culturel, de compétences, en fait. Ça répond pas complètement.
Si, bah, si je peux aller plus loin, je ne sais pas si... Il y a aussi, enfin, ce que je me demandais, pour faire un lien, est-ce qu'il y a aussi qui pourrait être une troisième idée, la méconnaissance, mais pas non plus forcément du public, la méconnaissance bureaucratique, administrative. Et c'est-à-dire, je pense, dans son dernier ouvrage, Jean-Marc Veller montre bien qu'en fait, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais qu'il y a une vue arrière ou une vue avant, enfin, il a fait une typologie qui est assez intéressante sur le fait que quand on traite un dossier, eh bien, on n'a pas forcément toujours, les street level bureaucrates ne sont pas toujours la vue de soit l'historique des personnes, donc la vue avant, soit la vue arrière, que quand vous rentrez un dossier, ce que ça va traiter, ce que ça va donner comme résultat. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien que selon, il fait une typologie en quatre temps, du coup, soit vous avez une double vue, avant-arrière, vous regardez des deux côtés, soit vous êtes complètement aveugle, soit vous regardez qu'en avant ou qu'en arrière. Donc ça fait quatre typologies dans son travail. Et ce qui est intéressant, je me demande si ça pourrait pas renvoyer à où se situe l'administration fiscale là-dedans. Parce que ça produit pas la même activité discrétionnaire. Selon les cas, l'activité discrétionnaire va agir différemment. Et donc le rapport que va avoir l'usager des impôts avec justement son guichetier ou la personne qui lui fait face ne sera pas la même, selon qu'il va juste rentrer, ça va produire dans un cas justement quelque chose d'extrêmement tendu avec un traitement social de la misère qui va être extrêmement... ça va tendre les choses, ou au contraire, quelqu'un qui va chercher à améliorer, il va pouvoir vous répondre ou pas. Enfin, je ne sais pas si c'était aussi cette logique-là, pas que du côté usager, enfin, ou administré, côté aussi professionnel qui lui fait face. Ça, je ne sais pas si...
Si, j'ai lu son ouvrage, j'ai fait une recension qui va paraître là. Enfin, moi, la réserve que ça m'évoque, c'est que justement, c'est cette... cette focalisation sur l'importance des dispositions, des dispositifs matériels et la non prise en compte des propriétés sociales des agents qui engage, à mon avis, enfin voilà, une sociologie du rapport à l'État, du coup, qui est assez différente de celle que j'ai essayé de faire. Mais bon,
est-ce qu'on pourrait pas justement l'articuler avec cette sociologie de l'État souterrain, ce qui visibilise ou pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire? Je vois bien que ce n'est pas la même chose, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de les accrocher toutes les deux?
C'est un débat.
C'est un débat, d'accord.
Est-ce qu'on estime que tout a été dit pour l'instant?
Frédéric a beaucoup dit que finalement le livre était assez prémonitoire de ce qui allait arriver juste après la sortie, etc. Et effectivement, alors, je ne l'ai pas lu, donc j'ai une bonne synthèse là, je crois. Et ça paraît tout à fait intéressant cet aspect-là, mais en même temps, avec cette crise des sociales et politiques des Gilets jaunes et ce mouvement qui suscite énormément de débats sur l'impôt en fait. Et qui est parti effectivement du refus d'une taxe sur le carburant, mais dont on s'est vite aperçu qu'au fond, ça s'est vite transformé en autre chose. Quoi. Ce mouvement-là, il a vite porté d'autres revendications. Et... Alors après, il faut faire attention du point de vue duquel on regarde, parce qu'on pourrait avoir tendance à se dire ah, c'est peut-être plus maintenant un mouvement sur la justice fiscale, sur l'injustice contre l'injustice fiscale. Mais peut-être pas tant que ça, au fond, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs composantes. Mais... est-ce que ce que tu as pu mettre en évidence dans le livre sur notamment, même ne serait-ce qu'au niveau de connaissance, enfin de compétence des Français face à l'impôt, enfin, à partir d'un échantillon, bien sûr, est-ce qu'il n'a pas changé avec tout ce débat-là aussi, et sur la justice fiscale aussi, et sur même l'ISF, puisqu'en fait, l'ISF, je veux dire, évidemment, c'était très, ça a été très discuté pendant un certain nombre d'années, enfin les années 80, qui sont aux différents moments où les gouvernements de droite ont voulu abattre cet impôt, quoi. Mais en gros, les discussions ont probablement rarement pris les proportions qu'elles prennent actuellement autour de l'ISF, avec Macron qui arrive et qui d'emblée supprime, enfin, pour une grande partie en tout cas, des imposables à cet impôt. Et ce mouvement des Gilets jaunes qui remet ça sur le tapis et qui pointe une injustice fiscale. Donc d'une part, le rapport à la connaissance du système fiscal des Français, pas seulement des Gilets jaunes, tout le monde du coup, est amené à se poser des questions là-dessus. Et puis, la connaissance, et puis le rapport, plus généralement, peut-être à l'impôt, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Parce qu'au fond, on voit qu'un certain nombre une partie au moins des Gilets jaunes réclament aussi des services publics. Alors, le gouvernement, Macron, etc., eux, veulent se limiter à l'équation, écoutez, si vous de services publics, il faudra plus d'impôts, ou alors si vous voulez qu'on baisse les impôts, ce sera moins de services publics, en éludant bien sûr tout ce qui est ISF, niche fiscale, évasion fiscale, etc., qui permettrait en fait de... Mais du coup, voilà, est-ce que tout cet événement, est-ce qu'il rebat pas un peu les cartes, et est-ce qu'il n'y aurait pas de nouveau une enquête à faire pour mesurer en fait l'effet d'une telle crise? Il y a toujours une enquête à faire.
Oui,
mais justement, après un tel événement, est-ce que ce ne serait pas intéressant de refaire l'enquête pour, enfin, ça, c'est pas forcément la même, mais en tout cas sur cette question de connaissance des impôts et de justice fiscale, etc., par les Français, pour voir l'effet, enfin, en tout cas, puisqu'il y a la tienne là maintenant, sachant qu'il y en avait très peu avant ou pas, ça fournirait un point de repère, ce serait plutôt intéressant. Enfin, toi, quel est ton sentiment là-dessus, sur ce qu'une crise comme ça peut changer dans la perception des choses?
Non, mais moi, ce qui m'a frappé dans cette crise, donc ce que tu dis est en partie vrai, et en même temps, les tendances de fond restent les mêmes. Mais c'est en partie vrai. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu qu'au début, c'était quelque chose sur les carburants. On en peut. Enfin, je me souviens de celle qui a fait une vidéo en fait sur les réseaux sociaux. Je sais plus comment elle s'appelle, Nadine, quelque chose. Voilà. C'est très marrant d'avoir entre deux points. C'est-à-dire au début.
sa vidéo, c'est de dire on n'en peut plus, enfin c'est un truc très très basique et très infrapolitique, on n'en peut plus de payer des taxes, on n'en peut plus, taxes sur l'essence, taxes sur les péages, faut arrêter les taxes, etc. Et 10 jours après, il y a une manifestation, etc., elle est invitée dans les médias, elle commence à parler de l'ISF, de l'injustice fiscale, etc. Et juste entre la première séquence et la deuxième, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire une forte socialisation au mouvement, une prise de conscience de tout un tas de choses. Voilà. Et ça corrobore aussi mon enquête. C'est-à-dire que moi, dans mon enquête, j'ai évidemment très souvent posé la question de l'ISF en entretien, et aussi dans le questionnaire statistique. Et ce qui apparaît, c'est que... Alors, l'ISF est un des impôts considérés comme le plus juste comparativement aux autres impôts. Il y a 67% des personnes qui le considèrent comme un impôt juste. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Et dans les entretiens, beaucoup de gens qui disent « Moi, l'ISF, je ne le paye pas. » Enfin, voilà, parce qu'à l'époque, quand j'ai fait les entretiens, on parlait de suppression de l'ISF, ce n'était pas encore le cas, etc. Et quand je posais la question, c'était « Non, moi, je ne le paye pas, j'en sais rien, j'aimerais bien le payer. » Enfin, voilà, il n'y avait pas du tout cette politisation telle qu'on la voit aujourd'hui. Et je pense qu'on ne pourrait plus dire la même chose. Donc, c'est ça. Et en même temps, donc il y a eu une socialisation à l'ISF. Et maintenant, tout le monde a bien compris le symbole que ça représentait. Tout le monde a bien compris qui est-ce qui le payait et qui ne le paye plus, etc. Et en même temps, voilà, ce qui est quand même... ce qui corrobore quand même beaucoup l'enquête sur la distance et les faibles compétences en matière de système fiscal, c'est aussi les revendications en matière de fiscalité qui sont... Alors, il n'y a pas de travail des partis politiques, on n'en a pas parlé, mais il y a très peu de travail des partis politiques sur de réflexion, de proposition sur le, justement, est-ce que ça serait une justice fiscale. En fait, là, tout le monde colle à l'idée de « il faut remettre l'ISF ». Moi, c'est quand même un peu court. Et là, pour le coup, on peut dire avec Macron que quand il y avait l'ISF, tout n'était quand même pas que justice et bien-être pour tout le monde. Et c'est frappant de voir que, en fait, tout le monde s'en tient presque à cette revendication. L'autre revendication qui fait consensus chez les Gilets jaunes, c'est TVA zéro sur les produits de première nécessité. Ça relève d'une forme de méconnaissance de ce qu'est le système fiscal. Pourquoi ? Parce que TVA zéro sur les produits de première nécessité, il y a beaucoup de produits de première nécessité, enfin la plupart, c'est à 5%. Quand vous enlevez 5%, d'abord, il y a ce truc de l'Europe où le pouvoir peut toujours dire on ne peut pas le faire parce qu'il y a l'Europe, etc. Et quand bien il le faisait, ça fait quelques centimes. Et puis encore une fois, personne ne parle d'une CSG progressive qui serait une manière de rendre véritablement et directement du pouvoir d'achat. Alors que la baisse de la TVA, on a vu ce que ça fait dans la restauration. En gros, s'il n'y a pas un système de contrôle des prix, c'est tout de suite récupéré par les producteurs. Et en fait, quand je dis quelques centimes, c'est même peut-être zéro, en fait. C'est-à-dire que si on passe la TVA à zéro sur les nouilles et les sauces tomates, rien ne dit que les prix vont changer, en fait, dans cette histoire. Donc c'est aussi une forme de... disons, qui n'est pas encore une fois aidé par ni les partis, ni les syndicats, mais une forme de méconnaissance de ce que ça voudrait dire de rendre du pouvoir d'achat, en fait. Parce qu'il y a d'autres manières de rendre du pouvoir d'achat. Donc voilà. Et je pense que au-delà de la question de la socialisation de toute une génération à ce que, effectivement, ce qu'est l'ISF et le totem que ça représente, voilà, je ne suis pas complètement sûr qu'on ait beaucoup progressé dans la connaissance du système fiscal, parce que voilà, parce qu'il y a d'autres aspects, ne serait-ce que par exemple en termes de coûts pour les finances publiques, enfin je veux dire la flat tax, il y a quelques militants très politisés qui en parlent, le fait d'avoir remis à 30%, mais 30% tout prélèvement inclus, en fait, hein, les revenus du capital, c'est aussi, je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué à visualiser, parce que en fait c'est il faudrait dire que c'est 30% à l'intérieur desquels on compte de la CSG et de la CRDS. Donc en fait, du point de vue de l'impôt sur le revenu, c'est une tranche qui est bien inférieure à 30%. À comparer avec la tranche à 45%, on rentre dans quelque chose d'assez technique. Et donc en fait, c'est pas une revendication qui est audible et qui peut être portée. Alors que... et puis on pourrait en prendre comme ça beaucoup d'autres. La taxe foncière, voilà, ça reste un impôt... Enfin voilà, c'est, moi, ce qui me frappe, c'est que personne ne parle de la taxe foncière, alors que tout le monde a encore aujourd'hui en tête que ceux qui sont propriétaires, finalement, c'est des privilégiés. Alors qu'on est, voilà, on est dans une situation où on a plus de 60% de propriétaires, beaucoup de classes populaires qui sont en cours d'acquisition de propriété, endettées, etc., sur lesquelles la taxe foncière pèse à plein. Et voilà, on n'en parle pas du tout. Donc voilà, je pourrais prendre beaucoup d'exemples comme ça pour dire que oui, il y a eu un effet d'apprentissage et de socialisation sur l'ISF, mais que c'est encore quand même très partiel.
Sur les parties, je pense que c'est aussi une grosse question de complexité. C'est la question de la complexité à amener ces affaires-là, parce que sur les,
il y a des mouvements ou des partis qui proposent des choses, enfin, je sais pas, la France Insoumise qui propose la remise à plat et un découpage en 14 tranches avec beaucoup plus de progressivité, mais on voit comme ils ont du mal à l'amener.
Ouais, mais il y a le reste sur l'impôt sur le revenu, on dit rien sur la taxe foncière, on dit rien sur la CSG progressive, on dit rien, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on dit rien, même à la France Insoumise.
Non, mais on voit que l'ISF, c'est facile de le ramener dans le débat. Mais le reste, par exemple, tu me disais, la flat tax, c'est compliqué de rentrer dans des discussions comme ça, en fait, dans des débats politiques, au moins. Les temps d'expression sont courts. Tu veux le faire signer.
Je sais si on
a
continué, on arrête. Oui, non, mais je juste peut-être pour terminer, non, je pense quand même que moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point, mais peut-être que ça va changer, hein, mais la question fiscale est devenue centrale dans le débat politique. Hein, je le dis d'ailleurs aussi dans le chapitre 1, le fait que maintenant, pour remporter une élection présidentielle, il faut faire une promesse fiscale. Hein. Sarkozy, c'était travailler plus pour gagner plus. Hollande, c'était la taxe à 75%. Macron, c'était la taxe d'habitation. Et voilà. Alors est-ce que ça suffit? Il faut d'autres choses. Mais en tout cas, il faut ça, déjà. Et que, qu'en même temps, c'est une proposition. Et que au-delà de ça, il y a quand même un sous-investissement et une sous-réflexion sur cette question-là qui est problématique parce que... finalement, c'est, enfin, je veux dire, encore une fois, et qui devient d'autant plus problématique que la question est devenue centrale à la faveur du mouvement des Gilets jaunes, et que, bon, il fut un temps pas si éloigné où ça a été une question qui a intéressé quand même à un moment donné des partis politiques. Où, voilà, et donc, par exemple, porter un projet de système fiscal. Aujourd'hui, la seule organisation que je connaisse qui porte un projet de système fiscal alternatif, c'est Solidaire Finances Publiques. C'est pas grand-chose, hein. Enfin, ou peut-être que vous en connaissez d'autres, mais j'ai un projet global qui dit, ben voilà, sur tel aspect, on doit faire ça, 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 ça et ça. Mais sinon, et qui le met en avant comme quelque chose de central, etc. Sinon, voilà, ça reste quand même très... Alors après, voilà, il n'y a pas que ça, il y a d'autres aspects à prendre en compte, etc. Mais pour l'instant, ce qui est frappant, c'est ce décalage-là. Mmh. Ben merci pour encore une fois la discussion et l'invitation. Merci à tous.
Merci à toi. Merci.